Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Nous connaissons tous les westerns qui ont contribué à construire le mythe américain, cette longue marche vers l'ouest accomplie par des hommes souvent parés de toutes les vertus. Certes, du courage, il en a fallu. Mais dans ce pays en construction, arrivaient des gens souvent chassés de leur pays par la misère ou poursuivis par la justice. Le gouvernement de Washington, relayé par des shérifs plus ou moins intègres, avait du mal à faire appliquer la loi et c'était bien souvent la loi du plus fort et du plus malin qui régnait. Voici un épisode peu connu de l'histoire américaine qui nous est conté dans ce roman intitulé « Les captives de la vallée de Zion ». Il s'agit de la lutte du gouvernement américain contre la polygamie instaurée par la secte des Mormons. Ce roman est édité par les éditions Héloïse d'Ormesson et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur Norman Ginsberg. Norman Ginsberg, bonjour.
Bonjour.
Vous avez des origines américaines et on sent que vous êtes séduit par cette épopée de la conquête de l'Ouest. Parce que si je m'abuse, il y a eu un roman précédent et on retrouve votre personnage.
Exactement. Ouais.
Oui.
Oui, effectivement, j'ai des origines américaines. La famille paternelle, je suis né d'un père américain et d'une mère française. J'ai d'ailleurs la double nationalité. J'ai vécu là-bas avant de décider de m'installer définitivement en France. J'ai une véritable, c'est vrai, une véritable fascination pour l'épopée américaine, même si ma famille est originaire du Midwest, c'est-à-dire de Chicago et de sa région, et que mes romans se déroulent dans l'Ouest américain que je trouve mille fois plus beau et plus spectaculaire.
Les paysages sont magnifiques. Quels sont les livres qui vous ont marqué sur ce territoire américain ?
Alors, à vrai dire, sur cette région du sud-ouest des États-Unis, c'est-à-dire l'Arizona, l'Utah, le Colorado et le Nouveau-Mexique, qui sont mes territoires de prédilection, j'ai pas trouvé de romans extraordinaires. En revanche, c'est vrai, je suis vraiment pétri de littérature américaine. Avec le maître pour moi par-dessus tout, c'est William Faulkner, dont j'ai lu toutes les œuvres. Mark Twain, que j'adore également.
Steinbeck, et,
bien sûr, ouais. Steinbeck, ou encore Cormac McCarthy, que j'adore aussi. Mais Jim Harrison aussi, dans ses bonnes années, parce que vers la fin,
il n'y a pas très longtemps.
Ouais. Peu finalement se sont intéressés à l'Ouest américain, donc c'est à mon tour de défricher ce territoire lointain.
Comme ce territoire est vaste, vous aurez de quoi défricher. En fait, donc, il y a le retour de ce personnage d'Ocean Miller. Alors, je ne prononce pas avec
Ocean.
Miller, dont on avait fait la connaissance dans Arizona Tom.
Exactement.
Alors, qui est-il ? Il atteint maintenant la soixantaine ?
Il atteint la soixantaine. Il n'a pas vraiment pris de bonnes résolutions pour ce qui est de la consommation de l'alcool et du tabac. Il porte un regard assez désabusé sur le monde, un peu souvent comme ces juifs d'Europe centrale, puisqu'il est d'origine juive, hein, avec ce regard toujours un peu
extérieur,
dubitatif, on va dire. Et en même temps, il a une mission qu'il prend très au sérieux, celle de faire respecter la loi. Et il est chargé d'une mission très particulière qui consiste à donner la chasse aux mormons polygames au moment où la polygamie a été interdite aux États-Unis.
Alors, on va en reparler parce que ce personnage, vraiment, il m'est très sympathique. C'est vrai qu'il est désabusé, c'est vrai que ses supérieurs se moquent de lui. Mais en même temps, alors il se dit même froussard, je crois qu'il est prudent. Alcoolique, oui, il doit l'être. Paresseux, il se dit paresseux, je n'en suis pas sûre, mais bon, il fatigue un peu peut-être. En fait, j'allais dire qu'il a des idées d'avant-garde, mais en fait, il a un fond d'humanisme qu'on ne retrouve pas trop dans ce milieu du Far West, finalement.
Ah oui, parce que là-bas, c'était la loi du talion, c'était quelque chose, les rapports humains étaient extrêmement durs, la vie n'avait pas une très grande importance, il y avait beaucoup de violence et de brutalité. Mais lui, il a cette espèce de patte humaine dont il est pétri, qui fait qu'il est, il peut être brutal, violent lui aussi, mais il a quand même une sensibilité qu'il exprime plus ou moins, et alors, en particulier un amour absolu pour la nature.
Oui.
Qui va d'ailleurs lui sauver la vie.
Oui, et c'est vrai qu'à un moment donné, on va sans doute, si on a le temps, on pourra lire des extraits. Alors, le premier chapitre nous met tout de suite dans l'ambiance. Peut-être qu'on le lira à la fin, on va voir. Nous met en relation avec ces trois personnages. Le premier, donc, c'est lui, Ocean Miller. Il y a ensuite... son patron, je dirais, John Faraday. Bon, lui est un peu particulier en ce sens qu'il est le vautour des Rocheuses. Bon, je dois dire à nos auditeurs que je ris parce qu'il y a souvent beaucoup d'humour dans votre ouvrage. Ouais. Voilà. Alors, avec un langage très cru, on reparlera également du langage. Alors, le vautour des Rocheuses, c'est le marshal, c'est-à-dire le supérieur de Shane Miller. Il a des propos rudes, bon, à l'image de l'époque, pas d'état d'âme, plutôt raciste. Et alors l'adjoint. Alors apparemment, Ocean, vous dites ?
Ocean, oui.
Ocean Miller a de mauvaises relations avec les Bataves, c'est-à-dire les Néerlandais.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Disons que ça résulte peut-être d'expériences personnelles. J'habite dans le Gers où il y a quelques Néerlandais et très honnêtement, je trouve pas qu'ils respirent la sympathie. Ils nous prennent vraiment. Moi, j'ai discuté avec des agriculteurs, avec des élus locaux. Et ils ont tendance vraiment à nous prendre pour des métèques. Ils se méfient de la nourriture.
Ils vivent en circuit fermé.
Ils vivent en circuit partout, fermé. Oui. Donc, pour le fun, parce qu'il y a probablement... les Hollandais ne sont pas des gens très fréquentables. Mais pour le fun, c'est vrai qu'ils n'aiment pas les Bataves. Quoi. Donc, voilà.
Oui, oui, oui. Alors, bon, dès le premier chapitre, bon, c'est à la fois rude et drôle. On est loin des salons de Boston et de New York. Et il y a également égrené tout au long du livre, d'ailleurs, des souvenirs d'anciens combattants.
Oui, ça c'est important parce que on est certes plus de 20 ans après la fin de la guerre de sécession, mais il faut savoir que la guerre de sécession, c'est quelque chose qui a véritablement traumatisé l'Amérique et durablement. Imaginez quand même que le pays se coupe en deux et que sur cette jeune nation, il y avait, il devait y avoir 60 millions d'habitants au maximum. Il y a eu 500 000 jeunes hommes qui ont trouvé la mort dans un combat fratricide.
Oui.
C'est quelque chose d'absolument terrible et qui a traumatisé durablement l'Amérique et en particulier ceux qui ont fait cette guerre parce que c'était une lutte à mort avec, et on l'oublie souvent, et souvent on l'ignore tout simplement, des méthodes à la fois très archaïques, c'est-à-dire cette façon absolument terrifiante quand on y pense aujourd'hui, d'avancer en ligne sous les balles, hein, et tomber ceux qui tombaient. Il y avait donc ça, et en même temps, des armes extrêmement dangereuses, très létales, comme par exemple les fameuses balles minées, qui ont été inventées d'ailleurs par un Français, qui explosait dans le corps et faisait des ravages terribles, d'où un très grand nombre d'amputations, en sachant que pendant la guerre civile, 2 amputés sur 3 ne survivaient pas, quand même, il faut le savoir, des canons, etc., etc. Ça a été une véritable boucherie et qui a durablement traumatisé tous ceux qui y ont participé, un peu d'ailleurs comme mon père a été traumatisé par le débarquement le 6 juin auquel il a participé. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'évocations de cette guerre civile à travers des personnages qui ont même été partie prenante dans cette guerre.
Ce qui m'évoque une rencontre ici de T.C. Boyle, qui était venu.
Oui.
Et qui a
eu... Vous avez une bonne fréquentation, alors.
Tout à fait. Mais oui, vous êtes là, évidemment. Ouais. En fait, qui m'a surprise, un peu imprudemment, j'ai dit, mais vous n'avez pas connu de guerre véritable, comme nous avons connu, nous, trois à la suite, et puis les deux dernières affreuses. Il m'a regardé très scandalisé en me disant, mais si, on a connu une guerre, et c'était la guerre de sécession. Ouais,
absolument.
Voilà, oui. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, cette guerre. Alors, là, nous sommes en 1888 dans l'Utah, donc colonisé par les Mormons, et qui était arrivé en 1847, les saints des derniers jours. Hein.
Ouais.
Quelle est la mission qui va être confiée donc à Ocean Miller?
Alors il faut la remettre un petit peu dans le contexte pour bien comprendre.
Faudrait parler des Mormons d'abord. Ouais. Excusez-moi. Oui.
Les Mormons, si vous voulez, c'est une. Alors vous avez dit secte tout à l'heure. Il faut surtout pas leur dire secte, même si c'est vrai qu'on peut se poser des questions. C'est vraiment une église. À laquelle je me suis beaucoup intéressé parce que plus j'avançais dans la connaissance de cette religion, moi qui suis moi-même croyant, profondément croyant, plus j'avançais dans la connaissance de cette religion, plus je me disais que c'était une véritable mascarade invraisemblable. Je le raconte en quelques mots, l'histoire d'un jeune charpentier, un peu comme Joseph, dans l'État de New York, qui un jour entend Dieu lui dire « Si tu vas au fond de la forêt, tu vas trouver des plaques d'or sur lesquelles est écrite toute l'histoire de l'humanité et de l'Amérique en particulier. »
C'était Joseph Smith.
Joseph Smith, oui.
D'accord.
Et donc, il prétend avoir découvert ces plaques d'or. Il faut savoir que c'était quelques années après qu'on ait découvert Champollion, enfin que oui. Champollion
ait découvert
déchiffré les hiéroglyphes, oui. Ce qui a eu évidemment énormément de retentissement au niveau mondial. Donc, il découvre ces plaques d'or. Il en assure la prétendue traduction, et là, c'est un tissu d'incohérence absolument invraisemblable, mais invraisemblable. Si vous permettez, je raconte oui. l'histoire en résumé. Deux tribus venues de Palestine habitaient l'Amérique, les gentils, les néphites, les méchants, les lamanites, c'est toujours important, les bons et les méchants chez les Américains. Et Jésus est venu, il s'est probablement téléporté pour les admonester en leur disant « Ne vous battez pas, gardez de bonnes relations, et vous en particulier les lamanites, parce que si vous ne le faites pas, votre peau va s'assombrir, vous vivrez comme des crèves la faim, et voilà. » Et est arrivé ce qui devait arriver, les lamanites ont décidé d'exterminer les néphites. Ils étaient sur des grands éléphants dont on n'a jamais retrouvé trace, pas plus d'ailleurs qu'on a retrouvé les fameuses plaques d'or, et armés de cimetières, hein, tel que raconté dans le livre, alors que les cimetières n'existaient pas à cette époque, etc. etc. Donc, ils avaient quelques croyances, comme par exemple le fait qu'on pouvait être polygame, et au contraire, il fallait l'être, parce que plus on était puissant, plus on pouvait avoir de femmes, comme le roi Salomon, qui en avait 700. Vous voyez, c'est ce genre de référence. Mmh. Et en même temps, c'est une religion qui a donc été proscrite, ils étaient indésirables un peu partout, ce qui fait que le successeur de Joseph Smith, qui est un personnage très important, voire le plus important de l'église des saints des derniers jours, de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, pour être précis, a décidé d'emmener son peuple mormon très loin dans l'ouest américain, dans un territoire inhabité, où ils voulaient fonder un État libre et indépendant, où ils pourraient pratiquer leur culte comme ils l'entendaient, dont d'ailleurs la polygamie, mais il n'y avait pas que ça, jusqu'au jour, et là on en vient au thème du livre, où, frappant à la porte des États-Unis, demandant à devenir un État à part entière, Washington leur a dit « Eh bien écoutez, si vous voulez devenir un État à part entière, il y a deux choses qu'il faut supprimer. » D'abord, le droit de vote aux femmes, qu'ils avaient donné donc aux femmes, et deuxièmement, la polygamie. Et le chef de l'église mormone est parti se promener, et là, un ange lui est apparu qui lui a dit « Il faut en finir avec la polygamie ». Il s'est retourné vers son peuple, il a dit « C'est fini ». À partir de là, un certain nombre de foyers polygames se retrouvaient dans une situation épouvantable. Un mari avec 4, 5, 6, 7, voire une dizaine, qu'en faire. Et ils sont partis dans les montagnes, où ils se sont cachés, en espérant pouvoir continuer leur vie tranquillement. Dans mon roman, les choses se passent de manière assez différente, comme d'ailleurs dans la réalité, puisque quand on les attrapait, ils étaient mis en prison pour 4 à 5 années.
Oui, et d'après ce que j'ai compris, il reste encore des foyers polygames.
Oui, alors il reste des foyers polygames, contrairement à ce qu'on pense très peu en Utah, où l'Utah est un territoire extrêmement légitimiste, très à cheval sur les principes, très conservateur, il faut le dire, hein, c'est du Trump à 70%.
Oui. Très dynamique aussi.
Mais très dynamique. Oui. Et les Mormons sont des gens adorables, accueillants. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Ils ne m'ont pas encore converti, je pense qu'ils auront du mal à le faire. Mais il y a effectivement quelques foyers très, très marginaux, des petites communautés polygames, notamment dans le nord de l'Arizona.
D'accord. Alors, oui, moi, j'avais noté qu'il y a eu une loi en 1882, la loi Edmunds.
Exactement. Hein, c'est ça.
C'est-à-dire qu'on leur coupait les vivres s'ils n'obtenaient
pas. Absolument. Voilà. Ouais. Voilà.
Ça a joué quand même.
Oui, oui, ça a joué. Et si vous voulez, pour eux, ce qui était important, c'était ce qui était très important pour eux, pour l'Utah, c'était d'arriver à devenir un territoire prospère, qui puissent commercer avec l'Amérique et commercer avec l'Amérique, ça voulait dire être conforme à toutes les exigences de Washington, d'où l'abandon de la polygamie.
Voilà. Alors, Miller est chargé donc de poursuivre les Mormons fugitifs, ceux qui n'ont pas obtempéré, qui sont partis dans les vallées, au fond de vallées, et que l'on dit violents, parce qu'il y a eu des scènes, il y a eu des batailles, des
accrochages. Surtout des hommes qui ont disparu.
Oui, c'est ça. Voilà.
Et on l'attribue aux Mormons. La réalité est un peu plus compliquée, on le verra après.
Voilà. Alors, souvent, d'ailleurs, vous mentionnez, il y a des faits réels, parce qu'on voit très souvent des notes en bas de page, et c'est très intéressant aussi, au sujet de Lorenzo Snow, par exemple, j'ai noté, ce que dit le gouverneur à Ocean Miller, voilà. Alors, il a cette mission qui n'est pas une mission de tout repos, on se dit que quand même c'est un peu rude pour cet homme-là, et puis il s'entoure d'une équipe de bras cassés.
Oui, une équipe de bras cassés, même si... Il y en a quelques-uns quand même qui rachètent les autres.
Qui ont des qualités.
Un ancien tireur d'élite de l'armée sudiste, il y a son fils adoptif, certes sourd et muet, mais très bon de la gâchette. Et puis cet Allemand dont on va découvrir qu'il est homosexuel, qui est également très courageux et qui est un excellent éclaireur. Donc, et puis à côté de ça, il y a effectivement quelques épaves qui rendent l'équipe assez exotique.
Mais voilà ce qu'il en dit. Même si ce n'était pas la crème des chasseurs de hors-la-loi, je n'aurais pas échangé mes compagnons contre quatre gros bras fraîchement retirés d'un régiment de cavalerie. J'étais leur tête, ils étaient mes membres et nos cœurs nous unissaient. Ensemble, nous pourrions peut-être nous acquitter de notre mission, en revenir sains et saufs et se remplir les poches de surcroît. C'est ce que je me plaisais à penser en regardant ces bougres puants roupiller dans notre chambre d'hôtel. Voilà. Bon, donc il est très clairvoyant. Alors, en fait, parmi ceux, vous parlez de Tom, qui est un personnage assez étonnant, son fils spirituel, qui est mutique. Moi, j'ai tendance, je ne sais pas si vous le dites, mais je me dis, ses parents ont été assassinés, il a dû avoir un gros choc émotionnel et il ne parle plus.
Alors, en fait...
C'est moi qui fais peut-être cette interprétation.
Non, en fait, son père, ce gamin est entouré de mystères. On le suspecte d'ailleurs d'un meurtre que je ne...
Vous laissez en suspens.
Oui,
tout parce qu'il sait très bien découper les morceaux des animaux qui sont tués.
Et voilà, il y a quelques... Mais c'est un personnage très attachant et qui communique... dans Arizona Tom, le précédent livre, il avait 14 ans,
tout,
ou
tout
12
jeune,
ou 13 ans. Là, il est 18 ans, il est un peu travaillé par sa testostérone, mais il a quand même il a un talent absolument incroyable, comme il ne peut ni parler, ni entendre, et que par ailleurs, il ne sait ni lire ni écrire. Il dessine, et il dessine divinement bien, et il raconte un certain nombre de scènes qui sont assez poignantes, et vraiment avec un talent fou. Et il va être l'un des personnages clés de la bataille qui va avoir lieu au cœur des vallées.
Ce que je note aussi, c'est que dans cette équipe, beaucoup ont une histoire, quelque chose de tu. C'est-à-dire, il y a un mystère, un peu comme légionnaires, hein, je pensais à ça, en fait. Alors, Hank, vous en avez parlé, c'est le plus proche, à mon avis, d'Ocean.
Ouais.
Hein, c'est celui qui est le plus sensible, le plus réfléchi. homosexuel probablement, c'est ce que suppose Miller. Un non-violent qui soutient les Indiens, ce qui est quand même pas fréquent à l'époque. Il y en a eu.
Il y en a eu, oui.
Bon, et puis il y a le dénommé Joey. Alors moi, je connaissais, alors à ma grande honte, les Indiens Paiutes, je connaissais pas du tout.
Alors les Paiutes...
Paiutes.
Font partie des nations indiennes. Moi, je dis pas tribu, je dis nation. Elles méritent le respect des nations indiennes des Rocheuses. Elles appartiennent à la même famille que les Utes. Les Utes, UTES. C'est le nord de l'Utah, c'est le Colorado. Les Paiutes, c'est un des. Il y a les Northern et les Southern Paiutes. Ça, ce sont les Southern Paiutes. Un peuple décrit comme étant un peu primitif. Ce qui a été totalement démenti d'ailleurs par un linguiste américain qui, au début du XXe siècle, a étudié la langue Paiute, qui est extraordinaire et pleine de subtilité. Et ces Indiens Paiutes, je tiens à le signaler parce que il faut mettre un certain nombre de choses à l'actif, au crédit des Mormons. Ils ont réussi, eux, à la différence de beaucoup d'autres, à limiter le massacre des Indiens. Il y a eu entre eux et les Mormons à peu près, on estime, une centaine de colons qui ont été tués par les Indiens et plusieurs centaines d'Indiens en représailles. Mais c'est pas grand-chose
par rapport
au regard de ce qu'on a pu connaître ailleurs. Après, ils sont morts beaucoup de maladies, mais le peuple Paiute a, dans une très large mesure, entretenu de bonnes relations avec les Mormons, qui leur expliquait « Vous avez la peau sombre, si vous vous convertissez et que vous devenez des Mormons, eh bien votre peau s'éclaircira et vos petits-enfants seront prospères et ils sauront cultiver la terre. » C'est quand même extraordinaire.
Et... Alors peut-être qu'ils sont devenus prospères.
Ouais. Oui, enfin prospères, quand vous allez en Utah, il y a pas mal d'éleveurs de chevaux. Moi j'ai rencontré des agriculteurs qui étaient des descendants des Paiutes, hein, de famille, de génération en génération. Ils racontaient l'histoire qui était restée très vivace, de l'arrivée des Mormons. Hein. Moi, j'ai rencontré un agriculteur de mon âge qui, de génération en génération, avait appris un certain nombre de choses qu'il a évidemment transmis à ses enfants et ses petits-enfants. Donc, ces Paiutes, je me suis beaucoup intéressé et j'ai fait d'eux des personnages. Je les idéalise pas. Vous savez, souvent, quand les Européens se mettent à faire des livres sur les Indiens aux États-Unis, c'est des véritables caricatures. Ils sont bons, ils sont gentils, ils connaissent toutes les plantes, les animaux, etc. Ils sont pleins de qualités. Les Indiens étaient comme les autres. Ils étaient, les Blancs étaient voleurs, eux-mêmes l'étaient. Ils étaient cruels, les Blancs aussi. Enfin, voilà, c'était, il faut remettre les choses.
Je souhaitais en parler. C'est que, en effet, il n'y a rien de manichéen dans votre ouvrage.
Jamais.
On va voir que les situations peuvent se retourner. Celui-ci qu'on croyait honnête ne l'est pas forcément. Et on en reparlera. Mais avant, on va écouter un peu de musique du Far West, un western. Je ne sais pas exactement de quel...
Je vous dirai.
Voilà.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Norman Ginsberg. Il s'agissait de Cross the Wild Missouri par un groupe. Alors lequel? Est-ce que Norman Ginsberg, vous connaissez ce groupe? Ce CD a été acheté?
Non, je connais pas, mais ce qu'on vient d'entendre est tout à fait révélateur de. Alors, des mélodies qui se jouaient à l'époque où il y avait effectivement systématiquement un violon, une guitare, pas toujours des banjos contrairement à ce qu'on imagine, un harmonica, parfois même l'accordéon. Le morceau qui a été joué là est tout à fait emblématique de la musique. C'est un bravo pour celui ou celle qui l'a choisi.
Bon, très bien. Alors, nous revenons donc à cette équipée. Norman Miller, Ocean Miller, on va avoir des adjoints qui n'a pas choisi, dont une femme, Julia. Alors là aussi, c'est truffé de moments très drôles parce que la dénommée Julia est un sacré personnage. J'imagine qu'on en voyait comme cela parce qu'il se trouve qu'aux États-Unis, moi, j'ai rencontré quelques femmes dans des endroits complètement perdus qui me semblaient être de très fortes femmes.
Alors ça, c'est tout à fait exact, votre remarque, Monique. Et quand on étudie ce que j'ai fait, même si je suis romancier, je m'intéresse beaucoup, je me documente énormément sur l'histoire et les chroniques de la vie quotidienne. Alors évidemment, tout le monde a en tête la figure tutélaire de Calamity Jane. Mais vous avez énormément d'Américaines, comme par exemple Mary Austin, beaucoup d'autres, qui racontent la vie des femmes dans l'Ouest américain, qui était une vie absolument terrible. Terrible. Elles étaient perdues dans des fermes, battues par les vents, écrasées de chaleur l'été, dans un froid glacial, le blizzard l'hiver. Il fallait être extrêmement courageuse pour vivre dans ces conditions-là. Les femmes de l'Ouest avaient la réputation, en tout cas pour certaines d'entre elles, d'avoir vraiment des caractères bien trempés, ce qui est le cas de l'héroïne du livre.
Voilà, alors il y a un extrait qui est très drôle, vous acceptez de le lire?
Oui, bien sûr, oui.
Un extrait, donc un descriptif qui n'est pas exactement romantique, alors il y a une croix entourée d'un cercle, et puis voilà.
Oui, alors, oui, c'est ça. En la découvrant, j'ai perdu la force de me lever et de la toiser. J'ai même failli trébucher sur le rocking chair. Des femmes, j'en avais vu beaucoup, mais des comme ça, jamais, Dieu, jamais. Élancée et osseuse avec un nez français et un menton allemand, elle était vêtue comme un homme. Je lui ai donné entre 35 et 40 ans. Rien ne manquait à la panoplie du parfait éleveur de bétail. Un chapeau brun à large bord, une veste en cuir râpé, une chemise rouge sous un gilet sombre à boutons dorés, un pantalon en toile de Nîmes rentré dans des bottes de cavalier armées d'éperons étincelants, et pour achever de me stupéfier, un Colt 45 Peacemaker à la ceinture. Non, pour mon plus grand malheur, je ne rêvais pas. Deux yeux bleus pâles fixaient ma vieille trogne et un flot d'invectives s'échappait des lèvres minces qui découvraient de grandes incisives. J'ai quand même souri à la vue de son sac tapissé au motif rose pâle, vert prairie et indigo qui faisait tache parmi ses oripeaux on ne peut plus masculin.
Alors apparemment le nez français c'est pas glamour.
Alors oui, ça c'est l'équipe d'Héloïse d'Ormesson a reçu le manuscrit, ils m'ont appelé en me disant mais nez français on comprend pas et menton allemand qu'est-ce que ça veut dire? Et j'aurais dit évidemment ça c'est très américain. Mes cousins, mes oncles, mes tantes parlaient des Français, ils les désignaient toujours avec un très grand nez. Aux États-Unis, on imagine, enfin, bien avant De Gaulle, mais que le Français est réputé pour avoir un très grand nez. Quant aux Allemands, on les voit souvent avec un menton et des mâchoires carrées. Voilà.
D'accord. Alors, donc, il part à la recherche, Ocean Miller. Bon, déjà, avec Julia, les relations sont très tendues. Ouais. Il s'estime ridiculisé et elle le remet à sa place vertement. Et on verra qu'elle a on peut voir qu'elle a un rôle très important à bien des moments.
Bien sûr.
Où elle prend le pas un peu sur lui, hein, qui est un peu fatigué, un peu dépassé par les événements. Bon, ils vont entrer en contact avec la première famille mormon qui est composée de 4 épouses, donc le patriarche Chester Green. Un très brave homme, cet homme-là.
Mais ils étaient très braves, les polygames. C'était des gens pieux qui, comme tous les polygames, bon, je pense qu'il y avait peut-être quelques autres intentions, mais en réalité, l'Église leur avait donné mission de faire le plus d'enfants possible et de les élever dans la religion afin qu'ils deviennent des saints. Parce que quand on est mormon, on est un saint. On ne le devient pas, on n'a pas besoin d'être canonisé, on l'est. Voilà. Vous êtes baptisé, vous devenez un saint. Et vous ne cessez de l'être que si vous buvez, vous fumez, vous adonnez à l'adultère, etc. etc. Donc,
je ne veux pas dévoiler tous les moments de votre ouvrage, mais Chester Green a un double visage, hein, une double personnalité quand même.
Oui, tout à fait.
Bon,
ouais.
Voilà. Ouais. Alors, il n'y a pas de manichéisme, il y a des surprises. Par exemple, la réaction des femmes mormones.
Ah,
j'ai
oui,
dit
alors,
mormones, est-ce qu'on dit mais au féminin? Oui, mormones,
oui,
je
oui,
pense,
tout à fait. Alors ça, c'est une immense surprise pour moi. Là encore, le livre prend probablement beaucoup de liberté avec l'histoire, sinon ce ne serait pas un roman, mais c'est fondé sur des faits réels. Et à ma grande surprise, quand je l'ai lu, je ne l'ai pas cru, j'ai donc étudié la question, et notamment de la part d'universitaires qui n'étaient absolument pas mormons, étaient même très critiques vis-à-vis des mormons. Et là, j'ai découvert, et c'était incroyable, que les femmes mormones se sont rebellés contre la polygamie. Alors que pour moi, c'était une forme d'oppression. J'ai été élevé par une mère féministe.
Se sont rebellés pas contre la polygamie, au contraire, non?
Non, je pensais qu'elles se rebellaient contre.
Ah oui, d'accord. Ah oui,
contre.
Oui, d'accord.
Ayant été élevé par une mère féministe, c'était quelque chose. J'avais un regard assez négatif sur la polygamie. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que lorsque la polygamie a été interdite, les femmes mormones, de foyers pluriels, comme on disait, sont descendues dans la rue pour protester contre la fin de la polygamie. Alors là, les bras m'en sont tombés, j'ai vérifié, effectivement, il y a eu plusieurs...
Quels avantages trouvaient-elles?
Alors, quels avantages? Elles trouvaient plusieurs avantages. D'abord, je pense que à l'époque, la sexualité était quelque chose, sexualité féminine était quelque chose de, on va dire, assez rudimentaire. L'avantage qu'elles y voyaient, c'est qu'à 3 ou 4, elles se partageaient les tâches. Et l'une faisait la cuisine, l'autre le ménage, la troisième s'occupait des enfants.
Et la quatrième. Elle se rebellait contre le mari, alors là, c'est.
Et la quatrième, absolument. Et la quatrième, ou la cinquième, eh bien, elle pouvait apprendre à lire, écrire, etc. Et il y a une profusion de journaux intimes de femmes mormones et des études qui ont été faites
qui ont eu le temps.
Elles avaient un niveau d'alphabétisation qui était plus fort que dans le reste de l'Amérique.
D'accord.
Voilà. Donc elles se sont rebellées contre ça. Elles ont aussi manifesté contre la suppression du droit de vote, puisque Washington avait imposé ça comme condition.
Oui, et ça, je ne peux qu'admirer cette loi.
Ah oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, l'Église mormone est souvent caricaturée. Encore une fois, je ne suis pas mormon. J'ai de la sympathie pour les gens qui ont fait partie de la grande aventure. Il faut quand même, Monique, se souvenir de ce qu'ont fait ces gens qui étaient massacrés par les protestants, qu'ils appellent les gentils d'ailleurs. Il faut imaginer ce peuple, je raconte parce que c'est évoqué dans le livre, qui part à l'aventure vers une terre inhospitalière, et les plus pauvres, il y en avait des milliers, n'avaient même pas l'argent. Alors, ils venaient beaucoup d'Europe, hein. Ils n'avaient même pas l'argent pour s'acheter un bœuf, pour tirer le chariot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient ce qu'on appelle des handcarts, c'est-à-dire des charrettes à bras.
Ils s'attelaient.
Auxquelles ils s'attelaient, les hommes s'attelaient. Mmh. Et ils ont parcouru 3000 kilomètres. 3000 kilomètres. Mmh. Une volonté absolue d'aller dans cette nouvelle terre, de créer un nouvel État et de pouvoir vivre leur culte et de faire un véritable empire des saints des derniers jours.
D'accord. Et là, on voit l'épouse. Je pense que c'est la première épouse, en tout cas celle qui a le plus de pouvoir, qui invective Ocean Miller. Où est passé cet idéal de liberté de culte qu'avaient garanti la main sur la Bible les pères fondateurs de la République? George Washington et Thomas Jefferson doivent se retourner dans leur tombe.
Oui, mais ça, c'est très important parce qu'il faut jamais oublier aujourd'hui. Vous savez, quand on regarde depuis la France, pays laïque, l'Amérique, on a un peu de mal à comprendre, mais la religion, je veux dire, aux États-Unis, oui. En France, le président ne prête pas serment sur la Bible. Oui. Et il n'y a pas marqué « In God we trust » sur les billets.
Et quand donc on voit la Bible Belt aussi.
Oui, bien sûr, la religion est très très importante. Oui. Très très importante, c'est elle qui a fondé l'Amérique, c'est parce que des gens qui étaient persécutés, qui voulaient vivre leur culte en toute liberté, ont habité ce ouais. pays, et dans toutes les religions, les juifs, les piétistes, les ménonites, toute forme de religion,
qui
baptiste.
Qui venait de Suisse et d'Allemagne.
Oui, de Suisse, d'Allemagne, et également de ce qu'on appelle la Volksdeutsch, c'est-à-dire la Volga. Et il faut avoir ça en tête. Ce qui explique qu'aujourd'hui, alors ça peut paraître étonnant, que une majorité d'Américains ne croient pas à la théorie de l'évolution, mais croient à la théorie, enfin, pour eux, ce n'est pas une théorie, de la création, le créationnisme, c'est-à-dire Dieu a créé Adam et Ève, et c'est d'Adam et Ève dont nous sommes les descendants.
Voilà, alors bon, on continue. Vous avez tout à l'heure évoqué la sensibilité de Ocean Miller à la beauté de la nature, et ça aussi c'est très américain, je pense qu'ils sont très attachés à leur pays également, à cette beauté qui, on ne peut être que soufflé quand on se déplace aux États-Unis, et c'est magnifique.
Ah oui, c'est absolument magnifique, et alors je tiens à le dire parce que les Américains, les Européens, les Français en particulier, ceux qui vont aux États-Unis vous parlent de New York, de Boston, de Miami, de la Nouvelle-Orléans, de San Francisco, Los Angeles. Il faut absolument aller dans l'Ouest américain et particulièrement en Utah parce que les paysages sont à couper le souffle. Et par ailleurs, pour ceux qui s'intéressent un peu à la géologie, c'est un livre ouvert sur l'histoire de la planète. C'est absolument incroyable, incroyable. Ouais. C'est magnifique.
Alors, l'expédition est loin d'être de tout repos, loin de là, et d'ailleurs, à un moment donné, ils vont découvrir un véritable carnage. Alors là aussi, vous mettez à mal nombre de préjugés véhiculés, même chez les personnages de votre roman. Ben, les plus cruels ne sont pas forcément les Indiens.
Non,
on le sait.
Non, mais là aussi, les actes de cruauté commis par les Blancs étaient absolument terrifiants. Je veux dire, si on devait faire un palmarès, si tant est qu'on puisse se livrer à l'exercice,
ils ont réussi, on
les Blancs
beaucoup,
hein. Oui, mais c'est épouvantable. Oui. C'est une honte, c'est une tâche. La façon dont
est-ce qu'ils
Blancs
le vivent comme tel?
Non. Il y a de la part de certains intellectuels une espèce de conscience, mais pendant des siècles, c'est horrible. On les a, mais non seulement exterminés physiquement, mais on les a trahis. Cette façon qu'avaient les Blancs de systématiquement prendre prétexte du moins d'incident pour rompre un traité. Il suffisait qu'une bande d'Indiens affamés vole une vache pour qu'on décide de décimer un village entier. C'était absolument épouvantable.
De même qu'on les a parqués dans des endroits qui n'étaient pas particulièrement
mais totalement,
fertiles.
Totalement. Ouais. Il fut un temps d'ailleurs où il avait été décidé, les Américains s'y étaient engagés, de ne pas franchir le Mississippi, de laisser toute la rive ouest aux Indiens. Et très vite, on s'est assis là-dessus. De toute façon, il y avait une espèce de rouleau compresseur américain, mais depuis le début, cette volonté hégémonique est tout à fait compréhensible, pour le remettre dans le contexte de l'époque, d'être de l'Atlantique au Pacifique, avec la Louisiane qui à l'époque était française et que les États-Unis ont rachetée, et l'Alaska qu'ils ont rachetée pour une poignée de cerises aux Russes.
Voilà, alors on apprend également qu'un vénérable mormon peut s'enrichir en pratiquant une véritable traite des femmes blanches, que toutes les femmes ne sont pas consentantes pour le mariage pluriel et que même un adjoint de shérif peut commettre un forfait. On découvre tout ça au fur et à mesure et bien d'autres choses encore. Mais moi, ce personnage de Sean Miller, j'ai un grand faible pour lui. C'est l'anti-héros finalement.
Oui, c'est un anti-héros.
Et en même temps, il est héros d'une certaine manière.
Oui, enfin, en même temps, et c'est pas quelqu'un, c'est pas un shérif comme on les imagine, qui montre ses muscles, etc. Il est toujours un peu pensif. Il est un peu donne toujours le sentiment d'être en retard d'une guerre, mais il est très attachant et je me sers de lui pour raconter une Amérique un peu moins caricaturale que celle qui nous a été donnée à voir à travers les westerns des années 50 et 60.
Tout à fait. Alors, quant au style, je crains qu'on n'ait pas exactement le temps de lire toute la... J'aimerais que vous nous lisiez le début, et puis il y aura peut-être la musique du générique. D'accord. Qui apparaîtra.
Alors, le début. 20 ans de plus, mais toujours le même. John Faraday n'avait pas changé depuis notre dernière rencontre en 1868 à Little Rock en Arkansas. Avec son crâne nu comme un œuf et ceint d'une couronne de cheveux couleur paille, ses petits yeux ronds et marrons, séparés par un nez busqué et son long cou d'oiseau s'élevant d'un corps squelettique, il avait des allures de vautour des Rocheuses. Le type d'homme ou d'animal avec lequel on a guère envie de se lier d'amitié. Pas du genre à qui on offre un verre au comptoir d'un saloon ou une charogne à dépiauter en plein désert. Côté caractère, ça ne s'était pas arrangé, toujours aussi peu avenant le Marshall. Cela faisait bien 10 minutes que j'étais assis face à lui dans son bureau et j'attendais toujours qu'il daigne m'adresser la parole. C'était sans doute sa manière à lui de me faire sentir qu'il disposait de moi comme ça lui chantait. Autrement dit, je suis ton boss, tu es mon sbire, fermons le banc.
Voilà, eh bien un extrait. Évidemment, moi j'avais noté plein de phrases, de remarques pleines d'humour. Mais voilà, il faut que nos auditeurs prennent votre livre, achètent votre livre, lisent votre livre surtout. Alors il s'agit de Les captives de la vallée de Zion aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et c'est de Norman Ginsberg. Merci d'être venu.
C'est moi qui vous remercie, Monique.
Au revoir.